Bonjour. Ça va? Oui, tant mieux. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent à distance. C'est un plaisir d'être devant vous ce matin. Et vraiment, que nous puissions nous souvenir que Dieu nous aime. Vraiment. Et ce matin, je crois que Dieu adresse cette parole à une ou deux personnes dans cette salle ou chez lui à domicile en disant « Je te vois et je t'aime. Je t'appelle, je t'ai déjà appelé. Viens, suis-moi. » Alors vraiment, s'il y a des personnes qui se sentent interpellées par cet appel de Jésus aujourd'hui, eh bien de pouvoir y répondre. On peut se voir à l'issue du culte, si vous le souhaitez, pour prier. Alors ce matin, je vous propose une lecture dans le livre de l'Apocalypse. Waouh ! Ce sera le chapitre 22, c'est le dernier. Dernier chapitre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, donc dernier chapitre de la Bible. Au chapitre qui précède, on aurait pu lire aussi ce chapitre 21 qui annonce qu'il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre et la Jérusalem céleste qui descend du ciel et qui est absolument magnifique. Après l'annonce de jugements, de catastrophes qui surviennent, qui sont en train de survenir, qui sont déjà intervenus, il y a déjà eu lieu, qui viendront encore, eh bien nous avons cette vision de la Jérusalem céleste. Et je vous propose de lire le chapitre 22 depuis le premier verset. C'est l'ange me montra, c'est donc Jean qui parle, hein, l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos, en exil, c'est un prisonnier sur cette île, hein, ce n'était pas des vacances là-bas, il était prisonnier. Et il a eu cette révélation de 22 chapitres. Et l'ange lui dit, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà. Laisse imaginer cette vision absolument magnifique hein, de ce fleuve, de cette place avec l'arbre de la vie qui est là au milieu, qui donne son fruit, qui est là pour la guérison des nations, et tous les serviteurs qui ont le nom de Jésus inscrit sur le front, qui vont le louer et le servir. Et il me dit, au verset 6, « Ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'Esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. » Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. C'est la deuxième fois que Jean se prosterne devant un ange, devant l'ange. Il est tellement saisi. On peut penser par ce qu'il voit, par ses révélations, qu'il tombe en adoration devant l'ange et qui lui rappelle d'adorer Dieu. Puis il ajouta, « Ne marque pas du sceau du secret les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore. » Mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Verset 12, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. » Quel texte, hein ? Christian me demandait si j'allais annoncer la date. Je dis non, pas tout de suite. Peut-être à la fin du message. Non, mais vous imaginez ce texte quand il a été reçu par les sept églises d'Asie auxquelles il a été envoyé. Jean a écrit a été saisi par l'ange, par Jésus, pour avoir cette révélation, et qui lui a demandé de l'écrire et de la transmettre. Alors, ça devait être bien des chrétiens de ces églises vivaient dans la persécution. Je vous laisse relire les chapitres 2 et 3 où il s'adresse aux sept églises d'Asie. Il y avait une grande partie qui vivait dans la persécution. Et c'est vraiment pas drôle, c'est vraiment pas facile. Et vous imaginez, oui, je viens bientôt. Je viens bientôt. Ça devait être un encouragement absolument fantastique pour ces chrétiens. Ils étaient heureux, certainement. C'était la joie, non pas une joie humaine, mais la joie qui vient de Dieu. Viens, Jésus, ne tarde pas. Ça devait certainement être le cri de leur cœur. Viens, viens, viens. Jusqu'à quand tarderas-tu pour faire justice, mettre juste et saint dans l'Apocalypse aussi. Et puis certainement qu'ils avaient reçu aussi les lettres de Pierre à l'époque, qui dataient d'avant l'Apocalypse. Et ça devait faire écho chez eux, parce que certains d'entre eux, ils avaient peut-être appris par cœur, comme nous, hein, on apprend par cœur la parole de Dieu. Et dans Pierre, hein, Pierre, on dit « Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui vous fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Ils étaient dans la tristesse, il y avait des épreuves, peut-être qu'ils avaient perdu des membres de leur famille, qui avaient été mis à mort, qui étaient emprisonnés, qui étaient persécutés, mais ils avaient cette espérance du prochain retour de Jésus. Mais aussi des avertissements dans ce livre de l'Apocalypse. Dieu, c'est pas « t'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est cool ». Chaque église, dans les premiers chapitres, avait reçu une dédicace spécifique, si je puis dire, de quelques versets. Mais certaines, ce n'était pas drôle. Hein. Dieu, il ne dit pas les choses avec un langage diplomatique. Il est plein d'amour. Il le dit avec amour, mais il dit la vérité. Et puis, pour certains chrétiens, c'était peut-être un peu moins enthousiasmant. Hein. Je pense à certains chrétiens de Laodicée. Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Ou bien, et aveugle. Et puis, aussi de l'église de Sardes, qui passait pour vivante et qui était morte. Et puis, Pergame, dans lequel il y avait de fausses doctrines, et certains qui suivaient ces fausses doctrines. Donc, Dieu dit les choses. Il a dit les choses à ses églises. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Laodicée, qui est repris comme il me semble être le plus sévèrement, il lui dit, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Dieu reprend tous ceux qu'il aime. Il ne nous abandonne pas. Il ne laisse pas. Il n'a pas, pour le moment, nous sommes dans le temps de la grâce, et il y a encore la possibilité de venir à lui, de nous repentir, même si on est déjà venu à lui et puis qu'on s'est un peu éloigné. Il y a toujours cela. Dieu nous parle pour que nous puissions nous repentir, que nous puissions changer d'attitude et que nous puissions repartir tout à nouveau avec lui. Dimanche passé, nous nous sommes souvenus et réjouis de la résurrection de Jésus. Eh bien, cette semaine, je nous invite à nous souvenir, à nous réjouir de ce que ce Jésus que nous avons vu ressusciter dimanche passé va revenir. Est-ce que ce texte nous enthousiasme aussi, nous? Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer? Jésus va bientôt revenir. Amen. Ou bien est-ce que c'est bof? De toute façon, c'est écrit quand, ça? Hein? Tu peux me dire quand ça a été écrit? Hein? Dans les années 90, on est en 2022. Est-ce que Jésus est revenu? Que puic! Eh bien, pourtant, c'est une vérité, puisque c'est Jésus qui se présente sous plusieurs titres dans ce chapitre 22, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'étoile du matin, la racine de David, mais aussi son descendant. Waouh ! C'est Jésus qui est là. Alors, est-ce que ça nous réjouit ? Est-ce que ça représente quelque chose de réel pour nous ? Et puis, si oui, si ça représente quelque chose de réel, est-ce que nous nous y préparons ? Et comment est-ce que nous nous y préparons ? Est-ce que nous sommes prêts pour ce moment où Jésus va revenir ? Alors Jésus, il ne va peut-être pas revenir aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine, ni dans un mois, ni dans une année, ni dans 10 ans, ce sera peut-être plus tard. Mais entre-temps, peut-être que nous allons mourir. Oui, en tout cas, un certain nombre d'entre nous avant que Jésus revienne. Peut-être tous, je ne sais pas. Et de toute façon, ceci reste valable pour nous, que Jésus revienne pendant notre vie ou qu'il revienne après. Il a dit 1, 2, 3, 4 fois, Jésus dit, voici, je viens bientôt. Ou le temps est proche, voici, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Alors voilà, comme je disais, bon, sympa, 2000 ans. Eh bien, déjà à l'époque, rendez-vous compte, déjà à l'époque, il y avait des moqueurs qui parlait de ça, puis qui disait « Oh, Jésus qui dit « Je viens bientôt », et puis il n'est toujours pas là. » C'est Pierre, encore lui, qui écrivait dans sa deuxième lettre qu'il y avait des moqueurs qui pensaient que Jésus tardait dans l'accomplissement de cette promesse. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous précise que Jésus ne tarde pas. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun de nous ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça le plan de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Donc, il ne tarde pas, il ne tarde pas. En plus, nous avons une notion du temps aujourd'hui qui est complètement différente de celle de l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. On était dans le jour même, on n'était pas à se projeter dans le futur. Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Mais un jour, eh bien, sa patience et sa grâce auront une fin. Et ça, il faut qu'on en soit bien conscient. Un jour, ça sera terminé, puis il ne va pas le dire 3 mois avant. Écoutez, je reviens dans 3 mois. Préparez-vous pour le 10 septembre. Ça ne va pas être comme ça. Ça va être à un moment donné. Il a dit qu'il vient comme un voleur dans la nuit et à un moment donné, sans crier gare, eh bien, ça va se passer. Zacharie écrivait déjà « J'ai pris ma houlette grâce et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. » Alors, est-ce que nous sommes dans cette latente de ce retour? Bien sûr, vous allez tous me dire oui. Hein? J'imagine. Alors, je repose cette question, je nous pose cette question. Comment est-ce que cette attente se manifeste dans nos vies? Comment est-ce que nous nous préparons pour ce moment? Vous allez me dire, ah bon, il faut se préparer. Comme je disais au début, tout à l'heure, eh bien, il y avait dans les parties qui étaient écrites aux sept églises, dans les chapitres 2 et 3 de ce livre, eh bien, il y avait une évaluation qui était faite, un jugement des églises, une évaluation qui était faite avec, qui était très pointue, hein, je vous laisserai relire ces chapitres si vous les avez plus en tête, très pointue, mais il y avait aussi des encouragements et des recommandations pour se préparer à ce retour de Jésus. Alors, que dirait aujourd'hui Jésus à l'église de Lazare et à d'autres églises locales s'il nous écrivait une lettre? Et puis, comme l'église, ce n'est pas des pasteurs et des anciens, mais c'est tous les membres qui forment l'église, qu'est-ce qu'il nous dirait à nous aussi personnellement? Donc, c'est important pour nous d'être averti de ces choses. C'est important pour nous de lire ce livre de l'Apocalypse, qui n'est pas du tout un livre d'énigmes. Hein. On a fait des théories absolument abracadabrantes sur plein de choses, sur 666, sur la marque de la bête. En tout cas, je vous rassure, on ne peut pas vous inoculer la marque de la bête à votre insu. Il suffit de lire la Bible pour se rendre compte que ce n'est pas du tout ça. Donc, il y a plein de théories, puis on n'ose pas lire ce livre. Un commentateur que je disait en fait, il le considère un peu comme une bande dessinée. Parce que c'est un style de texte dont on n'a plus du tout l'habitude. Nous, ce style de texte, on ne connaît pas. Mais c'était un style qui était connu à l'époque. Et les lecteurs de l'époque avaient l'habitude de ce genre de littérature. Et donc, soyons attentifs aux avertissements qui y sont. C'est tellement facile d'oublier les avertissements. En tout cas, moi, je ne sais pas vous. Mais on a eu le Covid. Vous vous rappelez du Covid? Non, hein? On a presque oublié. Ce n'est pas vrai. Mais à part ça, on se disait, après le Covid, enfin, en pleine crise du Covid, on se disait, après, ça sera terminé, on vivra différemment, ça sera complètement différent. Vous avez vu qu'à la veille du week-end de Pâques, il y avait 26 km de bouchons au Gothard. Et que l'aéroport de Genève-Cointrin a fait son plus gros week-end depuis, qui est comparable presque au week-end de Pâques de 2019. Il y a une guerre à nos portes. C'est à 2000 km, l'Ukraine. C'est pas si loin, hein. Au début, on était en souci, on voyait le prix de l'essence qui grimpait, qui grimpait. Bien sûr, on prie pour l'Ukraine, on prie pour les personnes qui sont là-bas. Puis on regarde aussi un œil sur le prix de l'essence qui augmente. Puis à un moment donné, on se dit, waouh, tiens, il s'est stabilisé. Cool, tout va bien. Les semences, on attendra pour voir. Bien sûr, il y a quelques soucis avec le climat aussi, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et puis, les conséquences de ce réchauffement qu'il y a sur notre terre. Bon, pour le moment, en Suisse, on est encore assez épargné. Hein. Cool. Et puis, il y a aussi des inégalités sociales qui sont gigantesques. Je lisais hier dans Le Temps que le 50% de la population mondiale détient le 2% des richesses totales. Vous vous rendez compte? 50% de la population qui détient 2% de la richesse mondiale. Ah. Alors, je ne vous dis pas le 1% le plus riche, combien il en détient. Bon, en Suisse, ça va encore. C'est moins inégal que ça. Il y a des inégalités, mais... Et puis, je nous rappelle aussi qu'il y a quand même un certain nombre de, de prophéties qui ont été faites. Et puis, entre autres, il y a eu la déclaration de l'équipe de prière et discernement par rapport aux 7 années de famine qui s'annoncent, et y compris pour la Suisse, y compris pour la Suisse. Et une crise monétaire, financière, absolument colossale, qui va se produire en Europe et dont la Suisse ne va pas rester indemne. Donc nous avons des défis qui sont là. Nous avons des défis. Comment est-ce que nous allons vivre en tant qu'Église face à ces défis qui sont devant nous? Donc ça signifie qu'il faut qu'on soit prêt. On ne peut pas rester à attendre. Vous rappelez à l'époque de Noé? Vous imaginez Noé qui construisait son arche? Il était traité de fou. Et un jour, eh bien, la porte de l'arche a été fermée par Dieu et le déluge est arrivé sur la terre et toute la terre a péri. Mon beau-fils a construit un bateau. Je ne sais pas s'il supportera un déluge. Donc, mais c'est pas en vue de ça. Je le précise. Paul écrivait à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On voit qu'il y a des faux prophètes qui vont essayer de séduire les croyants, qu'il y aura de l'apostasie, donc on va rejeter Dieu, même dans les églises. Hein. Il y aura de grandes tribulations. Alors c'est clair que c'est déjà le cas depuis plusieurs siècles. Des croyants sont persécutés pour leur foi dans bien des pays. Dans bien des pays, ils ne peuvent plus rien acheter. Ils sont coupés de la société, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas travailler. Alors nous, en Suisse, dans les églises d'Occident, on a été épargnés jusqu'à maintenant de cela. À part des faux prophètes, je pense. À part des faux prophètes. Hein, qui vont font miroiter santé et richesse. Tout va bien se passer. Et puis, encore plus, si vous versez de l'argent. Et puis d'autres qui présentent Dieu comme un papa bonbon qui fait grâce, même si on ne change pas. Ou tout autre message humaniste qui met l'homme au milieu. C'est quelque chose qui, là, ne nous épargne pas. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve ce verset, si je le retrouve? Le voici. Ma bien-aimée fille, mon bien-aimé fils, je t'ai sauvé par mon sacrifice et je t'aime tel que tu es. Tout va bien se passer pour toi. Surtout, ne cherche pas à changer de comportement. Je sais que tu n'es qu'un être humain et que j'ai placé la barre très haute. Ne t'inquiète pas, je t'aime. Voilà, hein, on est... Évidemment, ce verset ne se trouve pas dans la Bible. Il y a plein de choses qui sont justes dedans. Puis il y a aussi quand même des choses qui ne sont pas tout à fait correctes. Et donc, soyons attentifs à tout ce qui peut nous être dit, à tous ces prophètes, je ne vais pas dire de malheur en l'occurrence, c'est plutôt des prophètes de bonheur qui peuvent sévir, parce que ce n'est pas vraiment dans la parole de Dieu. Donc, ce qui est nouveau par rapport à tout ça, je pense quand même, c'est que dans les églises d'Occident, eh bien, nous sommes, ça commence gentiment. Les persécutions vont venir, je vous rassure, ça va monter en puissance. Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'y a-t-il une raison que les chrétiens de Corée du Nord ou d'Afghanistan, du Pakistan, d'Inde et de tellement d'autres pays soient persécutés et que nous ne le soyons pas? Est-ce que nous sommes meilleurs? Du reste, Paul a écrit à Timothée à l'époque, « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors là, il s'est passé dernièrement, on a un exemple en Finlande, je ne sais pas si vous avez vu, une ex-ministre finlandaise chrétienne qui a été jugée pour avoir, soi-disant, condamné l'homosexualité. Et l'une des principales charges qui était retenue contre elle était basée sur un tweet dans lequel elle reprochait à l'église luthérienne finlandaise de s'être associée à une gay pride. Elle accusait l'organisation d'élever la honte et le péché au rang de sujet de fierté. Et il figurait également sur ce tweet un extrait d'un verset biblique qui condamne l'homosexualité. Cette déclaration a été considérée comme un affront à la dignité des homosexuels et comme étant susceptible de provoquer le mépris, l'intolérance et même la haine à leur égard. Bon, cette femme a été acquittée finalement, mais on n'en est pas loin. Et proclamer ce que dit la Bible peut conduire devant un tribunal. Et puis peut-être qu'un jour, personnellement, ça ne m'étonnerait pas qu'on ne pourra plus forcément prêcher n'importe quoi. Et peut-être que certains passages de la Bible seront censurés. Vous savez, on élimine des livres, hein, plein de livres anciens, parce qu'ils font l'apologie de l'esclavage, par exemple, ou d'autres choses. Eh bien, on les retire des bibliothèques. Les Américains sont très, très forts pour faire ce genre de choses. Eh bien, pourquoi pas la Bible, en tout cas certains versets de la Bible. Donc, pour nous, ce qui est important dans ce contexte, c'est comment on se positionne en tant qu'Église. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper d'ennemi. C'est-à-dire que ce n'est pas la juge, ce n'est pas la personne qui nous traite d'homophobe, ce n'est pas le gouvernement qui institue des lois que l'on considère comme étant opposé à notre héritage judéo-chrétien, etc. C'est le diable. On peut lire dans 2 Timothée également, 2:24, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. » Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc c'est contre le diable, c'est le diable qui est notre ennemi. Et pour nous, en tant qu'Église, dans ces temps troublés qui arrivent, c'est d'avoir un comportement qui soit plein de bienveillance à l'égard de chacun, de ne pas avoir des conflits, de ne pas avoir des haines vis-à-vis de personnes. Et tout ça, c'est uniquement avec Dieu qu'on peut l'avoir. Ce n'est pas naturel. Naturellement, on va dire, mais c'est quoi? C'est des... Hein? Notre naturel revient au galop. D'où l'importance de nous préparer, d'être dans cette communion, relation avec Dieu. Nous devons vraiment nous préparer sérieusement aux temps qui viennent en ayant cette perspective du retour de Jésus. Parce qu'il y a une espérance qui est là. Pendant que je préparais ce message, je me suis souvenu d'une dame que j'avais complètement oubliée, que je soignais en EMS il y a 30 ans en arrière à peu près. Donc vous voyez, ça date un peu. C'est une vieille dame d'aristocratie neuchâtoise qui était là. Et puis, c'était exclu, elle était alitée à peu près constamment, c'était exclu de qu'on lui lave les cheveux ou qu'on la lave, à part une fois par semaine. Elle avait la coiffeuse qui venait, je ne sais plus, toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, qui lui lavait les cheveux, qui refaisait son chignon. Et ensuite, la seule chose que l'on pouvait faire, nous, c'était de mettre de la laque sur les cheveux. Et puis, pour la laver, on ne pouvait pas la laver, on lui mettait des compresses avec de la pommade, je vois Mathurin qui grimace, ou du talc, voilà, on lui mettait ça, et c'est tout ce qu'on pouvait faire à part son bain de la semaine. Je vous laisse imaginer l'odeur. Bon, tant qu'on entrait dans la chambre, simplement, ça allait. Ça sentait la laque pour cheveux. Mais quand on soulevait les draps, ben, c'était un peu moins ragoûtant. Alors, je pensais à ça en me disant, mais des fois, peut-être, est-ce que je viens à l'église pour me remettre une couche de talc? Et puis, waouh, ma chevelure apparaît de nouveau belle. Et Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas qu'on se contente d'une couche de laque qui cache ce qu'il y a dessous, mais qu'il y ait vraiment une transformation intérieure. Alors, nous avons dans ce, je reviens au verset, au chapitre 22 de l'Apocalypse, comment se préparer. On a des pistes. On a au verset 7, « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie ». Heureux, c'est la sixième béatitude de l'Apocalypse. Il y en a sept. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Et puis au verset suivant, qui dit que l'ange est le compagnon de service et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Au verset 14, la dernière de ces béatitudes, « Heureux ceux qui lavent leur robe, et puis que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. » Voilà, c'est vraiment ce qui est fondamental, c'est ce de garder la parole de Dieu. Alors, deux questions. La garder et la mettre en pratique, parce que ce n'est pas la lire simplement comme ça, mais c'est la lire avec l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous conduit. Quelle est ma relation avec la parole de Dieu? Est-ce que je la lis une fois par mois, une fois par année, tous les jours? Est-ce que je la lis dans son intégralité ou bien est-ce que je lis toujours les mêmes versets? Est-ce que je la médite? Et surtout, est-ce que je m'y soumets? Est-ce que je la mets en pratique? Et puis, de quelle manière est-ce que je la mets en pratique après? Parce qu'il y a des versets quand même qui sont extrêmement interpellants, hein, sur le pardon. Est-ce que je pardonne aux autres? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime les êtres humains, les hommes? Est-ce que je m'attache au Christ plus qu'à tout? Est-ce que je recherche les choses qui sont en haut et non sur la terre? Est-ce que je me détourne du péché, de la convoitise, du mensonge, du vol, de la haine, de la critique? Est-ce que je cherche à devenir saint? Est-ce que je pratique la justice? Etc., etc. Il y a plusieurs versets qui nous parlent à être saint. C'est pas simplement quelque chose comme ça en passant. Il y a plusieurs versets qui nous appellent à la sainteté. Cette sainteté qui nous est acquise par Dieu, c'est avec le Saint-Esprit, en laissant la parole de Dieu agir dans nos vies et l'Esprit agir dans nos vies. Sur quoi est-ce qu'on porte nos regards? Est-ce que nous sommes comme Paul qui écrivait aux Philippiens, « Portez vos regards sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange. » Est-ce que c'est là-dessus que nous portons nos regards? Des fois, peut-être, pas toujours, hein, je parle pour moi. Mais comme je me dis que je ne suis pas tellement si spécial que ça et hors du commun que cela, eh bien, je me dis qu'il doit y en avoir d'autres, peut-être, pour qui c'est la même chose. Mais c'est là-dessus que nous sommes appelés à porter nos regards pour être changés. Alors voilà, j'aurais encore plein de choses à dire, mais ça leur tourne, et puis vous devez être fatigué de m'écouter. Et c'est quand même de rappeler que la finalité de tout ça, si Dieu nous donne ses avertissements tout au long de sa parole, eh bien, c'est par amour pour nous. C'est parce qu'il nous aime. Et c'est parce qu'il veut que nous puissions le rencontrer. Parce qu'il s'est acquis une épouse. Ce n'est pas seulement des individus comme ça. C'est une épouse. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 25. Donc il y a cette notion, on est l'épouse de Christ. Waouh ! Moi, je ne réalise pas tout à fait. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Alors voilà, il nous aime tellement qu'il nous met en garde contre les dérives qui pourraient arriver. Il veut que son épouse soit prête quand il reviendra. Il nous dit que des événements pas faciles vont arriver, mais il nous assure de sa présence dans nos vies. Il est là pour nous encourager, nous rappeler que nous vivons au pays ennemi et que vivre en pays ennemi, eh bien, c'est différent que de vivre en pays ami. C'est un combat constant et pour combattre le bon combat, eh bien, il faut se préparer. Des fois, on est tellement bien sur la terre, hein, que tu fais beau, c'est cool. On oublie qu'on est en pays ennemi, puisque nous sommes citoyens des cieux. Alors vraiment que c'est un véritable travail de transformation et de repentance que le Seigneur nous appelle individuellement en tant qu'Église. Parce que notre nature humaine, elle va aux antipodes de l'esprit. Et c'est un travail qui est coûteux, hein, c'est pas easy cool. Il faut toujours remettre le métier, le travail sur le métier, c'est ça qu'on dit, hein, constamment. C'est jamais acquis une fois pour toutes. Et ça nous pousse vraiment à vivre cette communion avec Dieu. Et je me dis, quel temps est-ce que je donne à Dieu dans ma journée? Quelle part de ma journée je lui donne? Où est-ce que je passe le plus de temps? Vous pouvez vous dire ça, hein? C'est sur quoi que vous passez le plus de temps? Bon, ceux qui travaillent diront c'est au travail. Mais après, dans le temps libre, sur quoi? Est-ce que c'est avec Dieu, en présence de Dieu, ou bien est-ce que c'est ailleurs? Eh bien, Dieu nous appelle vraiment à quitter notre zone de confort. Voilà, ça c'était une expression, j'aime pas trop, mais on l'utilise tellement, aussi bien dans l'Église que dans le monde. Mais pour moi, vraiment quitter sa zone de confort, eh bien, c'est se laisser, c'est accepter que Dieu nous examine entièrement et qu'il nous mette à l'épreuve, qu'il connaisse nos pensées et nous mette à l'épreuve. Est-ce que nous sommes prêts à rejoindre le psalmiste, en l'occurrence David, qui disait au psaume 26, « Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset mes reins et mon cœur. » Psaume 26, 2. Et puis au psaume 139 également, où il dit de voir s'il est sur une mauvaise voie. J'arrive au bout. Je lisais dans le journal qu'un supporter ultra d'Yverdon Sport, vous savez qu'il jouait en la demi-finale de la Coupe Suisse de foot, qu'ils ont perdu. Cet ultra disait « Être un ultra, c'est vivre, dormir et chanter pour son équipe. » Alors, je me disais, c'est génial. Est-ce que moi, je vis, je dors et je chante pour Jésus? Pour que nous puissions être vraiment des ultras pour Dieu, dans le bon sens du terme, hein, bon, on ne va pas les casser, mais que nous soyons des ultras pour Dieu, que nous vivions, que nous dormions et que nous chantions pour Dieu. Alors vraiment que nous puissions oublier comme Paul ce qui est en arrière et porter ce qui est vers ce qui est devant, de courir vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur revient bientôt. Et en attendant, il est avec nous tous les jours. Et la seule chose qui puisse nous séparer de son amour, c'est quoi? C'est nous. C'est nous. Il n'y a rien d'autre. Donc que nous puissions vraiment vivre et puis être dans cette, toujours plus dans cette relation et dans cette communion avec le Seigneur. Je vais prier. Seigneur, merci pour tes promesses qui sont là, qui ne changent pas. Tu n'es pas en retard sur le rendez-vous avec ton Église, mais tu fais preuve de patience envers tous ceux pour que tous puissent venir à la repentance, puissent venir à toi. Tous ceux qui doivent entrer dans la ville sainte puissent y entrer. Alors Seigneur, merci de nous, de nous toucher encore. Que s'il y a des personnes dans cette salle qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, eh bien, puissent se tourner vers toi et dire « Oui, je veux être dans cette ville sainte. Je veux demeurer avec toi, Seigneur. » Et puis, je pense que nous sommes plusieurs à, voilà, pour qui cette marche n'est pas toujours facile, eh bien, que nous puissions, tu nous touches les uns et les autres, Seigneur. Que tu mettes ta main sur chacun d'entre nous pour nous amener à la maison, pour nous amener à être prêts pour ton retour, Seigneur Jésus. Que nos vies soient transformées profondément, qu'on ne se contente pas de mettre un peu de lac sur notre vernis chrétien, mais que nos vies de l'intérieur soient transformées. Je te prie vraiment pour que tu nous touches les uns et les autres et que nous puissions être des encouragements, des encourageurs les uns pour les autres aussi, Seigneur. On a vu, ce n'est pas facile, tu nous as mis en église, alors que nous puissions être encourageurs les uns pour les autres. Que nous ne soyons pas des critiqueurs qui remettons en question tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, mais que nous soyons vraiment des encourageurs, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, dans l'Église. Merci parce que tu nous donnes ta grâce, ton amour, et tu nous donnes ta puissance aussi pour vaincre la chair, comme on le chante parfois. Seigneur, c'est dans la reconnaissance, eh bien, que nous nous attendons à toi encore et que nous louons ton nom. Gloire à toi. Amen.